Bienvenue dans Adolescence, le podcast qui nous apprend ce que l'on n'a pas appris à l'école. Je suis Louise Aubéry et j'ai souhaité demander aux meilleurs experts de m'aider à affronter la vie d'adulte. Dans cet épisode, j'accueille Delphine Horviller pour répondre à la question « Comment apprendre à vivre avec la mort ?» Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous taguer dans vos posts et vos stories @franceinter et @louiseaubéry et je vous souhaite une très bonne écoute.
Je me suis toujours demandé comment je serais une fois adulte.
Je veux parler à un adulte!
Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants.
Sois jeune et tais-toi.
Être un adulte, définition.
Rentre chez toi et grandis.
Pour moi, adulte, ça veut dire responsable de ses actes.
Ça, je dirais de grandir.
Nous sommes sans arrêt confrontés à des séparations. La vie a une main qui plonge dans notre corps, se saisit du cœur et l'enlève. Pas une fois, mais de nombreuses fois. En échange, la vie nous donne de l'or. Seulement, nous payons cet or à un prix fou, puisque nous en avons, à chaque fois, le cœur arraché vivant. Chaque séparation nous donne une vue de plus en plus ample et éblouie de la vie. Les arrachements nous lavent. Tout se passe dans cette vie comme s'il nous fallait avaler l'océan. Comme si, périodiquement, nous étions remis à neuf parce qu'il nous rappelle de ne pas nous installer, de ne pas nous habituer. La vie a deux visages, un émerveillant et un terrible. Quand vous avez vu le visage terrible, le visage émerveillant se tourne vers vous comme un soleil. Mon père, mort il y a maintenant 13 ans, n'arrête pas de grandir, de prendre de plus en plus de place dans ma vie. Cette croissance des gens après leur mort est très étrange. Comme si la vie ne finissait pas, comme si elle était un livre dont aucun lecteur ne pourra jamais dire « ça y est, je l'ai lu ». La vision de mon père change avec le temps, tout comme moi-même je change. Ceux qui ont disparu mêlent leur visage au nôtre. Nous sommes étroitement liés, souterrainement, dans une métamorphose incessante. C'est pourquoi il est impossible de définir aussi bien la vie que la mort. On ne peut parler que d'une sorte de flux qui, sans arrêt, se transforme, s'assombrit, puis s'éclaire de façon toujours surprenante. La mort a beaucoup de vertus, notamment celle du réveil. Elle nous ramène à l'essentiel, vers ce à quoi nous tenons vraiment. On doit ce texte à Christian Bobin, feu Christian Bobin. Delphine Horviller, qu'est-ce que ce texte vous inspire ?
Je ne connaissais pas ce texte. D'abord, merci de me le faire découvrir. Il y a des éléments de ce texte qui me parlent énormément, c'est-à-dire la conscience que quelque chose des morts continue de grandir et d'une certaine manière de vivre en nous et de nous changer et continue de changer en nous. Il y a une phrase de ce texte avec lequel je suis pas trop en accord en vous entendant le lire. À un moment donné, je crois qu'il dit que on peut parler de la mort et beaucoup plus difficilement de la vie. Et moi, je crois que c'est l'inverse. Je crois qu'on peut pas parler de la mort. Je crois qu'il y a quelque chose dans la mort qui échappe au langage. On a beau essayer, on sait rien dire sur la mort. D'ailleurs, quand on essaie d'en parler, on dit souvent des banalités ou alors des choses déplacées. Et je crois que quand la mort surgit, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de parler de la vie et des vivants et de la trace qu'ils laissent dans nos existences. Mais on s'en est tous rendu compte, je crois, si on est déjà rentré dans la maison d'un endeuillé ou si on a été endeuillé nous-mêmes. Souvent, on se rend compte que quand les gens rendent visite aux gens qui ont perdu quelqu'un de proche, d'abord, ils savent pas quoi leur dire. Ou alors, ils leur disent des bêtises ou des choses un peu convenues, du style « Oh, maintenant, ils ne souffrent plus, les meilleurs partent les premiers ». Enfin, toutes ces phrases un peu convenues qui n'aident personne témoignent du fait qu'on est tellement mal à l'aise pour parler de la mort qu'on loupe toujours la cible. Et moi, mon sentiment, c'est que comme on peut pas parler de la mort, il faut toujours s'efforcer de parler de la vie et de la trace de vie que laissent les gens qui sont plus dans nos existences.
Comment expliquer ce malaise vis-à-vis de la mort? Est-ce que c'est principalement dû à notre ignorance?
Je crois que tout le monde est mal à l'aise pour parler de la mort parce que ça réveille en nous les plus grandes angoisses. Et puis, il y a des situations où c'est encore plus difficile de parler de la mort. Par exemple, parler de la mort à des enfants. Ça, c'est carrément presque une impossibilité. Ouais. En fait, on voit bien que les parents, les adultes, savent pas comment s'y prendre pour parler de la mort aux enfants et encore moins à leurs enfants. Et je pense que s'ils n'y arrivent pas, c'est parce que, évidemment, ça réveille en eux des angoisses, mais aussi parce que un parent qui parle de la mort à son enfant, c'est un parent qui doit, d'une certaine manière, rompre un pacte solennel que prend tout parent quand il a un enfant, qui consiste à dire, T'inquiète pas, mon chéri, je serai toujours là. T'inquiète pas, mon chéri, il ne t'arrivera rien ou il ne m'arrivera rien. Et en fait, ces phrases qui sont là pour rassurer les enfants ou les parents, on sait très bien que quand on commence à parler de la mort, on va devoir admettre qu'elles sont bidons, qu'elles sont fausses. Et je crois que beaucoup de gens ont du mal à accepter de rompre ce pacte un peu fantasmé, un peu mensonger.
Est-ce qu'il vaut mieux dans ce cas-là ne pas leur dire aux enfants, ne pas leur faire ces fausses promesses qui sont parfois juste naturelles ou en tout cas qui sortent de manière spontanée ?
Non, je crois que c'est plus fort que nous. On veut rassurer nos enfants et c'est un processus tout à fait normal de vouloir rassurer les gens à tout âge et particulièrement les plus jeunes. Mais pour autant, je crois qu'il faut jamais refuser d'engager une conversation sur la mort. Je crois que c'est une conversation très importante. Il faut trouver quand l'avoir avec nos enfants, avec nos parents, avec nos proches. Se demander quel est le bon moment pour en parler, mais ne pas fuir cette conversation essentielle. Il faut pas la fuir, d'autant plus que très souvent les enfants savent. Ils disent pas, mais ils savent très bien. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais enfant, je savais très bien qu'il y avait eu des deuils dans ma famille, même si on m'en parlait pas. Je savais très bien qu'il y a des gens qui étaient morts. J'en parlais pas parce que souvent, je voulais protéger un peu mes parents, je voulais pas leur faire de peine, je voulais pas qu'ils s'inquiètent. Mais en fait, je savais ou je sentais ou j'avais des antennes, comme ont un peu tous les enfants qui sont un peu éponges de tous ces sujets-là. Et souvent, je trouve ça dommage de pas leur en parler parce qu'en fait, ils savent ou ils sentent. Et c'est vraiment une conversation sacrée à avoir en famille, la conversation sur la mort.
Comment aborder une conversation sur la mort avec des enfants ? Comment tu l'abordes différemment qu'avec des adultes ?
Je ne sais pas si tu l'abordes différemment avec des adultes. Encore une fois, les enfants, souvent, ils savent et ils sentent et ils mettent les pieds dans le plat. Alors moi, dans mon métier, qui est un métier, je suis rabbin, donc j'accompagne très souvent des gens dans des situations de cycle de vie. Et j'ai été amenée dans ma vie très souvent à accompagner des gens dans une situation de deuil, et particulièrement à accompagner des enfants dans une situation de deuil. Et j'ai constaté à quel point les enfants savent très bien et ils perçoivent l'embarras des adultes. J'ai le souvenir d'une situation que j'ai racontée d'ailleurs dans plusieurs de mes livres, une situation à laquelle j'ai été confrontée, d'une famille qui m'a appelée pour parler à un enfant dans la famille qui venait de perdre son petit frère dans une situation dramatique. Et on était la veille de l'enterrement de son petit frère. Et ce petit garçon, je me suis assise en face de lui et il m'a dit « J'en ai marre, mes parents me disent que demain on enterre mon frère et ils me disent que mon frère est au ciel. Et moi je sais très bien qui peut pas être à la fois sous la terre et au ciel. » Et il a ajouté cette phrase incroyable, il m'a dit « Je voudrais qu'on me dise où il est vraiment pour que je puisse savoir où regarder pour le chercher. » Cette phrase était incroyable de poésie et de puissance, mais ce que ce petit garçon me disait, ou disait très bien à l'adulte que je suis et à travers moi à tous les adultes, c'est arrêter avec, ou en tout cas, pas arrêter, mais je suis conscient de vos failles de langage, je suis conscient de votre inconfort et je voudrais comprendre pourquoi il vous est si difficile de trouver les mots. Et la seule chose qu'on puisse dire à un enfant comme celui-là, c'est une fois qu'il a constaté notre inconfort, c'est de lui dire c'est vrai, il y a en nous un malaise absolu, il y a en nous des peurs, parce que les adultes aussi ont peur, il y a une conscience du mystère. Parce que non, les adultes ne savent pas tout et ne peuvent pas tout. Mais c'est encore une fois l'occasion d'une conversation extraordinaire. Enfin, quand un deuil surgit dans une famille, souvent c'est l'occasion de parler de tant de choses qui nous hantent, de nos angoisses, de nos peurs, de nos traumatismes, mais aussi de nos fantômes, entre guillemets. Parce que dans toutes les familles, il y a des fantômes. Dans toutes les familles, il y a des histoires qu'on n'a pas racontées, qu'on n'a pas su ou qu'on n'a pas voulu raconter. Et il y a des silences hérités du passé. Il y a plein de choses qui nous hantent. Et quand surgit la mort dans une famille, la mort de quelqu'un, eh bien, tout ça est réactivé. Et à mon sens, c'est l'occasion d'une conversation et il ne faut pas avoir peur d'avoir cette conversation.
On se demande un peu dans ce podcast comment devenir adulte, comment passer de l'enfance, de l'adolescence à l'âge adulte. Est-ce que ça passe par une prise de conscience de sa finitude ?
Je crois en tout cas que y a un moment donné dans l'enfance où tout le monde prend conscience d'une manière ou d'une autre de la mortalité, du caractère éphémère de nos vies, mais pas que de nos vies, de nos histoires, de nos idées aussi, de plein de choses, de plein de séparations et de deuils qu'il va falloir faire dans l'existence. Je sais pas si ça marque le passage à l'âge adulte, je crois en fait que ça arrive beaucoup plus tôt. Je rencontre moi beaucoup d'enfants qui, vers l'âge de entre 8 et 10 ans souvent, vivent une espèce de crise existentielle. Souvent ça se manifeste par des crises d'angoisse ou tout à coup une conscience des cauchemars ou une conscience, une prise de conscience de la finitude de l'existence. Alors, je pense que des psychologues ou des psychanalystes répondraient bien mieux que moi à cette question, mais j'ai constaté que c'est à peu près dans ces âges-là que surgit cette conscience. Moi, ça m'est arrivé à moi aussi, je me souviens très bien, autour de l'âge de 9 ans, un jour, je me souviens très bien de cet épisode, une nuit où j'ai pris conscience que j'allais mourir un jour. Et ça a été une source très forte d'angoisse, je me souviens très bien dans ma vie. Je crois que je suis pas du tout la seule à avoir vécu ça. C'est quelque chose que plein d'enfants vivent autour de cet âge-là. C'est intéressant parce que depuis l'enfance, on raconte à la nouvelle génération des contes ou des histoires dans lesquelles il y a toujours beaucoup de morbidité, beaucoup d'histoires de mort dans les contes qu'on raconte. En fait, c'est vrai, quand on réfléchit...
Non, c'est vrai qu'il y en a qui sont assez crus, hein, genre le petit chaperon rouge, j'ai toujours trouvé assez violent.
Oui, où on cite toujours Bambi et la maman de Bambi qui meurt. Et en fait, on met en scène la mort dans plein d'histoires qu'on raconte à nos enfants. Moi, je me suis beaucoup intéressée dans plusieurs de mes livres aux contes en général et à la fonction qu'ils remplissent. Parce qu'ils remplissent une fonction
capitale
dans notre construction mentale. Mais c'est intéressant de s'intéresser même aux formulations dans les contes. Par exemple, il était une fois. Il était une fois, c'est une phrase qui commence toutes les histoires qu'on nous a racontées dans l'enfance. Et il était une fois, c'est une formule qui est erronée d'un point de vue grammatical. En fait, on devrait dire « il fut une fois », puisqu'on raconte l'histoire du dragon qui mange la princesse, je sais pas. Un événement qui, de façon supposée, s'est produit une fois. On devrait pas dire « il était une fois ». Mais si on utilise l'imparfait, je fais un petit cours de grammaire maintenant, mais si on utilise l'imparfait...
On est en cours, c'est bon.
Voilà, c'est un petit tableau. L'imparfait, en français, c'est le temps de l'habitude. On dit, par exemple, chaque lundi, je faisais mes devoirs, je mangeais une crème au chocolat, je faisais du judo. Tout ce temps imparfait suggère une action répétée. Et donc, quand on raconte aux enfants une histoire qui commence par « il était une fois », en fait, on leur dit « je vais faire semblant de te raconter une histoire qui s'est passée une fois, mais il faut bien que tu comprennes qu'elle ne s'est pas passée une fois. Elle s'est passée encore et encore et encore une fois. Et si elle s'est passée tant de fois, elle pourrait bien se passer encore. » Et donc, c'est une façon un peu non avouée, un peu cachée, de dire aux enfants, quand on leur raconte un conte, ça raconte une vérité assez éternelle. Et ces histoires de drames et d'épreuves à surmonter, et de deuils avec lesquels il faudra apprendre à vivre, c'est pas une histoire vécue par nos ancêtres, c'est pas un fantasme, c'est pas une histoire d'il y a longtemps, mais c'est une histoire qui ne passe pas, c'est une histoire qui pourrait bien t'arriver.
Il y a aussi une sorte d'effet secondaire des contes qui nous pousse à imaginer et à imaginer le champ des possibles, comment pourrait être notre vie, vu que voilà, il y a vraiment différentes histoires. Est-ce que finalement il n'y a pas aussi une angoisse assez simple mais hyper vertigineuse du fait qu'avec la mort, c'est aussi finalement le deuil de toutes les vies qu'on ne pourra pas vivre?
Oui, en fait, ça aussi, c'est une expérience de l'entrée dans l'âge adulte par excellence. En fait, devenir adulte, en fait, si on devait le résumer en une phrase, c'est accepter que constamment, la mort nous rend visite. En fait, quand on est adulte, on sait que il y a ce qu'on va être, ce qu'on pourrait encore devenir, mais il y a aussi tout ce qu'on sera plus, tout ce qui n'est plus, et avec lesquels il faut apprendre à vivre. En fait, être adulte, c'est savoir que autour de nous, il y a des gens qui meurent ou qui vont mourir, mais pas que des gens. Il y a des idées qui meurent, il y a des convictions qui meurent. Parfois, des histoires d'amour meurent, des certitudes, et tout plein de choses qui fait qu'on est qui on est, parce que quelque chose est mort en chemin. Et c'est peut-être ça, la définition de l'âge adulte. C'est-à-dire garder confiance qu'il y a encore tout plein de possibles dans l'existence, heureusement. On n'a pas encore dit notre dernier mot, on pourrait devenir plein de choses. Mais quand même, il y a des choses et des gens et des idées et des possibles qui ne seront plus au rendez-vous.
Est-ce que vous avez le sentiment que ça a changé le rapport à la mort ces dernières années, notamment parce que je trouve qu'avec les réseaux sociaux, on la voit beaucoup plus, on en a beaucoup plus conscience, il y a des attentats qui peuvent survenir n'importe quand, il y a la crise écologique qui, somme toute, peut-être sera responsable à toute notre fin. Est-ce que, en termes de génération, quoi, il y a un peu une différence de conception ?
Moi, je pense qu'on est beaucoup plus exposé à l'angoisse. Tout ce que vous venez de citer, la crise écologique, les réseaux sociaux, nous expose à une angoisse particulière. Ça catalyse une angoisse chez beaucoup de gens. C'est le propre aussi des temps de crise. Il y a un niveau de stress et d'angoisse qui est très fort. Mais je suis pas sûre qu'on soit vraiment exposé à la mort. Je trouve qu'au contraire, notre société a une fâcheuse tendance à la cacher. On l'a bien vu pendant la crise du Covid. La mort nous rendait visite de façon collective. Plein de gens mouraient autour de nous. Mais on en parlait sous forme de statistiques. C'est-à-dire qu'on allumait la télé le soir, on nous disait, il y a aujourd'hui 1500 morts, 2000, 15 000, je ne sais pas, enfin, un chiffre qui nous permettait d'abriter ça derrière une statistique sans raconter l'histoire des gens qui mouraient, sans voir leur visage. En fait, on a une tendance dans nos sociétés, depuis pas mal d'années maintenant, à cacher la mort, à s'imaginer que elle ne nous rend pas vraiment visite, ou alors elle rend visite aux gens dans les EHPAD, dans les soins palliatifs, dans les services de réanimation, de préférence aux horaires de fermeture au public, et qu'on va pas y être vraiment confronté. Et je pense que c'est une erreur de faire ça. Je pense qu'il fut un temps dans nos sociétés, peut-être plus traditionnelles, ou même à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, où on laissait à la mort une place plus grande dans l'espace autour de nous. Par exemple, moi, mes grands-parents me racontaient toujours, et c'était vrai en France il y a encore moins d'un siècle, que quand quelqu'un mourait dans un immeuble, on mettait une pancarte à l'entrée d'une maison. On savait que quelqu'un était mort dans tel ou tel espace. Les gens qui avaient perdu quelqu'un mettaient un brassard autour du bras, simplement pour signaler qu'ils étaient dans un état de deuil. Donc, on laissait dans l'espace autour de nous et dans la conversation une place pour la mort. Et quelque chose a changé. Aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué, les gens, quand ils parlent de la mort, ils se mettent à parler tout doucement. Ils baissent la voix. On ne sait pas exactement qui est mort. On s'imagine que c'est sûrement pas dans les maisons où on habite, sûrement pas dans nos immeubles. On cache la mort. On fait comme si elle n'était pas là. Dans mon dernier livre, qui s'appelle « Comment parler de la mort aux enfants », comment parler de la mort aux enfants, précisément sur ce sujet, je donne des exemples qui étonnent souvent les gens, mais qui pourtant avaient lieu dans nos sociétés. Le fait que, par exemple, il y a environ un siècle, ça étonne toujours les gens quand on le raconte, mais dans notre pays, dans les campagnes, un peu partout, avec l'invention de la photographie, la technique photographique, quand quelqu'un mourait dans une famille, il y avait une tradition, on courait à ce moment-là chercher un photographe pour prendre,
immortaliser le moment.
Pour immortaliser le moment, mais pas simplement pour prendre la personne morte dans son lit de mort en photo et garder une image, pas du tout, du tout. Il y avait une tradition, c'est très bizarre pour nous, c'est un peu loufoque, mais on le trouve sur Internet, plein de ces photos en noir et blanc. On prenait le mort en photo dans une situation de vie. Donc, quelqu'un mourait, et tout à coup, on asseyait la personne à table, et toute la famille, les frères, les sœurs, les cousins se mettaient à table, peut-être tenaient un jeu de cartes ou un journal, et en fait, on recréait une espèce de scène de vie avec le mort pour garder une trace du disparu bien vivant dans la famille. Alors, ça paraît complètement morbide et loufoque, mais ça raconte quelque chose de à quel point nos sociétés ont changé dans le rapport à la mort. Il y a quelque chose qu'on voulait rendre visible à l'époque, qui faisait partie de la conversation et qu'on a un peu éclipsé et qui raconte en fait notre malaise, notre angoisse. Et encore une fois, moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on a tort. Je dis pas qu'il faut réhabiliter ces photos, évidemment pas. Mais je pense qu'il faut réhabiliter ces conversations. Je pense que c'est vraiment important de parler de ça, et particulièrement avec nos parents, avec nos enfants, et peut-être particulièrement quand on est en pleine forme, quand on est en pleine santé, quand la mort n'a pas toqué à notre porte, d'avoir toutes ces conversations sur notre finitude, se demander par exemple comment est-ce qu'on veut que les gens se souviennent de nous, quelles traces on veut laisser après notre disparition. Qu'est-ce qui est sacré pour nous et qu'on voudrait transmettre à nos enfants? Vous voyez, toutes ces conversations fondamentales sur la mort, en fait, c'est des conversations fondamentales sur la vie. Je raconte souvent une anecdote qui m'a été donnée de vivre, parce que pour moi, elle est très parlante. Un jour, j'ai officié à l'enterrement d'une grand-mère, d'une dame très âgée qui venait de quitter ses enfants, ses petits-enfants. C'était une grand-mère très aimante, un peu comme dans les films, une grand-mère qui fait des gâteaux au chocolat extraordinaires et qui nourrit ses enfants et ses petits-enfants. Et le jour de l'enterrement, pendant la cérémonie, une de ses petites filles s'est approchée du cercueil de sa grand-mère. Elle a déplié une feuille et devant ses proches, elle a dit la chose suivante. Elle a dit « 250 grammes de farine, 4 œufs, 150 grammes de beurre, etc., etc. En fait, elle a lu la recette du gâteau au chocolat de sa grand-mère. Ça peut paraître grotesque ou absurde, mais je crois que j'ai rarement assisté à un plus bel hommage rendu à un disparu. Cette petite fille disait à sa grand-mère, ou en tout cas à tous ceux qui lui survivaient, qu'elle allait laisser dans le monde une recette de vie, qu'elle allait laisser dans le monde le goût d'un gâteau au chocolat qui allait perdurer bien au-delà d'elle. Et je trouve que c'est ça, faire gagner la vie. C'est que la mort est là. Mais on trouve, nous les vivants et les survivants, moyen de dire à la mort, de lui faire un pied de nez et de lui dire « Non, 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 ce n'est pas toi qui aura le dernier mot. C'est la vie qui l'aura. »
En quoi la mort peut être un miroir et en effet, paradoxalement, presque un regain de vie quand ce sont des personnes qui meurent autour de nous? On est confronté finalement face à un fardeau que personne ne souhaite porter, mais le fait qu'il soit là, le fait qu'il nous rende finalement plus responsables, en quoi ça nous change potentiellement en tant que personne, en tant qu'adulte?
C'est difficile de répondre à cette question parce que on peut pas dire que la mort c'est forcément quelque chose qui nous fait du bien ou qui nous change ou qui nous fait grandir ou qui nous rend plus responsables. La mort, parfois, c'est quelque chose qui nous frappe, qui frappe nos proches et qui nous effondre et qui nous rend totalement impuissants et dysfonctionnels. La mort, c'est une même bénédiction, une malédiction. On peut en parler de bien des manières. Et loin de moi, l'idée de dire... je voudrais pas donner l'illusion que je dis « Ah, c'est chouette, il y a de la mort dans nos vies, c'est super, on va pouvoir continuer. » Bien sûr que non, il y a des gens qui, malheureusement, ont à vivre le deuil d'un proche. Et il n'y a pas d'autre mot que la catastrophe. En fait, c'est une catastrophe, un effondrement. Et il y a une difficulté absolue à se réancrer dans la vie ensuite, particulièrement quand cette mort, elle est tragique, qu'elle surgit à un moment de jeunesse ou de pleine vie ou de voilà quand on s'y attend pas du tout. Évidemment, il y a mort et mort, c'est pas la même chose de mourir à 105 ans entouré de toute sa descendance et d'un accident dans pleine jeunesse. Donc en fait, chaque cas est évidemment particulier. Mais je trouve que c'est important de se rappeler tout au long de notre vie que la mort en fait partie. Ce que je veux dire par là, c'est que on vit dans des sociétés où malheureusement, on a tendance à raconter la vie et la mort comme si c'était deux choses qui s'opposent. Il y a d'un côté la vie, il y a de l'autre côté la mort. On en parle de façon dichotomique, comme on dirait, il y a le blanc, il y a le noir, il y a le fort, il y a le faible, il y a le chaud, il y a le froid. Vous savez, il y a la vie et la mort comme si ça s'opposait radicalement. Et c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai. On sait que pour être en vie, de fait, il faut que la mort nous ait rendu visite. En fait, on est qui on est, vous êtes qui vous êtes et je suis qui je suis. Parce que constamment dans nos vies, il y a quelque chose qui est mort en nous. On est héritier de gens qui ne sont plus là. Mais encore une fois, on a changé de pays, changé de vie, changé d'amour, changé d'histoire. Il y a eu plein de morts, des grandes morts et des petites morts dans nos existences qui ont fait que, plutôt que de dire que la vie et la mort s'opposent, il faut plutôt dire que la vie, c'est ce qui compose avec la mort. La vie, c'est ce qui se construit avec ou malgré la mort. Et quand on commence à regarder les choses comme ça, c'est comme si on opérait une petite translation, un petit pas de côté, pour commencer à percevoir les choses autrement. Bien sûr, la mort qui frappe un proche, c'est une tragédie absolue. Mais il faut se poser la question de comment, parce que cette personne a été, le monde n'est plus ce qu'il est, et quelque chose en nous va continuer différemment.
Est-ce que vous avez déjà été, on va dire, frappé de plein fouet par la mort autour de vous? Et que faire? Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se sentent complètement impuissants et même désespérés parce que c'est le principe de la mort, sachant qu'elle est irréversible. Ça peut être extrêmement dur, quoi, de l'accepter finalement.
Mais ça l'est extrêmement dur de l'accepter. Et encore une fois, toutes les situations ne sont pas les mêmes. Il arrive que la mort nous frappe, frappe nos proches, que ce soit pas de l'ordre. Je mets plein de guillemets dans ce que je vais dire maintenant. Que ce soit pas de l'ordre de la tragédie. Il y a des morts qui sont des tragédies absolues, parce qu'elles surgissent à un moment où rien ne justifie, n'explique, ne permet de tolérer qu'elles arrivent. Et puis, il y a parfois des morts qu'on peut plus facilement accepté parce que c'est un peu plus dans l'ordre des choses. Voilà. Et c'est évidemment pas du tout la même chose à vivre. Et en réalité, il n'y a pas une... Il n'y a jamais une recette. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait, de répondre à vos questions. Évidemment, parce que, voyez, on a un tableau ici, comme à l'école. À l'école, on nous apprend que s'il y a des questions, il y a des réponses. S'il y a un problème, comme en mathématiques, il y a forcément une solution. Mais évidemment, là, on est en train de parler d'un sujet qui tolère pas de réponse et qui tolère pas de solution. Et je dirais même que quiconque vous suggère une réponse à ces questions existentielles fondamentales, eh ben, tenez-vous à distance de cette personne. Je crois qu'il faut accepter que quand on parle de la mort, on entre dans un domaine de tant de mystères et de tant de douleurs que il faut pas s'imaginer qu'il y a une réponse à ça. Chacun va devoir cheminer. Il y a des gens qui sont en deuil. Moi, je le vois dans l'accompagnement que j'ai souvent à mener aux côtés de personnes. Il y a des gens qui sont en deuil, qui vivent un deuil intense, qui dure une semaine, et puis après, quelque chose en eux les raccroche à la vie autrement. Il y a des gens qui vivent un deuil intense un mois, un an. Il y a des gens qui vivent un deuil intense toute leur vie. Et jamais ils n'en sortent. En fait, personne ne peut vivre un deuil de la même manière. En fait, je pense que quand on est confronté à un deuil, qu'on le veuille ou non, ça réveille aussi en nous tous les deuils passés. C'est comme si, quand surgit la mort d'un de nos proches, tous les morts de notre passé étaient au rendez-vous, étaient réveillés. Tout ce qui n'a pas été réglé, digéré. C'est pas du tout un hasard, d'ailleurs, que souvent, quand il y a un deuil dans une famille, on le sait, tous les secrets de famille remontent à la surface. Tous les fantômes du passé remontent à la surface. C'est un grand classique. Au moment d'un deuil, souvent, vous pouvez le remarquer autour de vous, c'est toujours le moment où, dans les mois ou les semaines qui suivent un décès, les gens s'engueulent. Il y a des disputes terribles qui remontent à la surface, ou alors des réconciliations sont possibles, parce que c'est comme si tout... on est en zone sismique, quelque chose bouge, le passé est réveillé, et tout est possible.
Et ça, c'est dans le cas, si on observe la mort autour de nous, et qu'on doit en effet la supporter, il y a aussi beaucoup de personnes, et pour le coup, je pense que ça concerne tous les âges, qui ont peur, eux, de mourir. Qui ont peur de ce qui finalement va, de manière inéluctable, arriver. Comment ne pas se laisser dépasser par cette angoisse existentielle ?
Je crois qu'on ne peut pas échapper à cette angoisse existentielle. Tout le monde a cette angoisse. Et moi, je trouve toujours assez suspect les gens qui vous disent qu'ils s'en sont débarrassés. Il y a des gens qui très fièrement vous disent « Oh, moi, j'ai pas peur de la mort ». Tant mieux pour eux. Mais j'ai un peu de mal à y croire. Je crois que l'angoisse existentielle de la mort existe chez tout le monde. Mais je crois qu'il y a des gens qui arrivent un peu mieux que d'autres à la sublimer. En fait, c'est le mot qu'on utilise d'un point de vue, j'imagine, psychologique ou psychanalytique pour le définir. C'est-à-dire que de cette angoisse, vous allez faire quelque chose. En fait, de toute peur et de toute angoisse, vous pouvez faire plusieurs choses. Soit la peur et l'angoisse, elles vous paralysent. C'est-à-dire qu'il y a une peur et une angoisse qui fait que vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes complètement dysfonctionnant, vous êtes paralysé, vous ne pouvez plus agir dans le monde. Soit vous allez trouver moyen de transformer cette peur en quelque chose. Par exemple, en une puissance de vie. Et je pense que souvent, les gens qui déplacent des montagnes dans l'existence, paradoxalement, c'est pas les gens les moins trouillards. C'est les gens qui ont le plus peur, justement. Parce qu'ils ont en eux cette peur et qu'ils vont en faire quelque chose, elle va se transformer, elle va comme muter en puissance de vie. Et tout à coup, c'est des gens qui, de façon incroyable, vont être capables de changer quelque chose dans leur existence. Pas parce qu'ils n'ont pas peur de la mort, mais parce qu'ils ont peur de la mort. Souvent, les gens me demandent, moi, parce que je suis au contact de la mort très souvent, je vais souvent dans les hôpitaux, les maisons d'endeuillés, les cimetières. Donc, il y a des gens qui pensent que parce que je la cause très souvent, elle me fait pas peur, ou je suis comme un peu immunisée, comme si j'avais eu un vaccin contre cette angoisse. Et c'est pas vrai du tout. En fait, je crois qu'on s'en débarrasse pas du tout. Mais par contre, on apprend peut-être à essayer, comme je le disais plus tôt, de trouver des mots qui font gagner la vie malgré tout.
On entend souvent cet adage selon lequel frôler la mort, ça permet de se rendre compte vraiment de la valeur de la vie. Et que des personnes qui, en effet, ont frôlé la mort apprécient ou sont beaucoup plus maintenant reconnaissants du cadeau de la vie. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut réussir à parvenir à cet état sans avoir à passer par le fait de frôler la mort?
On parvient pas nécessairement à ça en frôlant la mort, mais je crois qu'on parvient à ça en ayant conscience de la mort, c'est-à-dire en faisant pas semblant qu'elle soit pas là, et j'en parle pas, j'écoute pas, je vois pas. Je crois que si on a une conscience qu'elle rôde autour de nous, qu'elle est là et qu'elle fait partie de la vie, alors on peut commencer à vivre autrement. D'une certaine manière, quand on en prend conscience, c'est le premier jour du reste de votre vie. Quand vous savez qu'elle viendra, alors vous allez plus du tout vivre le reste de votre vie de la même manière. Moi, j'ai le sentiment, comme personne, mais aussi comme parent, comme mère, d'en avoir une hyper-conscience. Peut-être parce que dans mon métier, je suis confrontée très souvent à la mort. J'ai le sentiment que ça me donne une... J'en rigole souvent avec mes enfants, que je... Moi, je suis souvent, par exemple, peut-être trop, d'ailleurs, à leur faire beaucoup des déclarations d'amour, à leur dire ce que je pense, à avoir très, très peur de pas avoir eu le temps de leur dire tout ce que j'ai à leur dire. C'est peut-être angoissant pour eux, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie, et avec mes enfants en particulier, mais dans ma vie en général. Je pars du principe que parce que la mort peut me rendre visite n'importe quand et que j'en suis consciente, je ne remets jamais à demain quoi que ce soit. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dis, je ne repousse jamais les déclarations d'amour notamment, au lendemain, parce que nul ne sait si on nous prêtera vie, si je dois utiliser un langage religieux. Et donc, je pense qu'il faut très souvent fonctionner comme si potentiellement c'était la dernière fois qu'on le faisait. Alors, ça peut paraître très angoissant de dire ça, mais je crois que ça peut aussi émanciper de plein de choses, à partir du principe que vous ne savez pas si vous aurez le temps plus tard de faire et de dire et de penser. Débrouillez-vous pour le faire maintenant. Le faire, le dire et le penser.
Quel rôle joue la parole et le partage quand surviennent des deuils, quand la mort survient? Il y a parfois des réflexes de pudeur, d'en parler le moins possible, que ce soit voilà, par peur de faire du mal ou simplement par peur d'avoir mal. Mais qu'est-ce que la transmission nous apporte en fait?
Dans un de mes livres sur la mort, j'utilise la métaphore d'un jeu auquel on a tous joué un jour, qui est le jeu des sept familles. En fait, on a tous joué enfant au jeu des sept familles. Les règles des sept familles, c'est très simple. C'est que aux sept familles, on sait très bien que le père bricoleur n'ira pas avec la mère cirque, qui n'ira pas avec le fils cuisinier. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire famille au jeu des sept familles, il faut reconnaître qu'il y a un style ou une culture familiale qui est propre à chaque famille. Et en fait, au moment d'un deuil, ou quand la mort frappe à notre porte, c'est vraiment le moment par excellence où on est conscient, où on prend conscience de ce qu'est notre famille, c'est-à-dire quelle est sa culture. Il y a des familles, je ne sais pas si c'est le cas dans la vôtre ou pas, il y a des familles où on parle, il y a des familles où on se tait. Il y a des familles où on pleure facilement, il y a des familles où on se cache pour pleurer. Il y a des familles où les parents sont bavards, où les parents sont affectueux, et d'autres pas du tout. Il y a des familles où on est conscient des traumatismes passés. Il y a des familles où on les tait. Donc, c'est difficile de répondre à votre question parce qu'en fait, il y a des familles où au moment d'un deuil, on va se mettre à parler énormément parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Et il y a des familles où on va se dire plein de choses sans les mots. Par exemple, dans ma famille, c'est comme ça. On ne parle pas nécessairement, mais on transmet plein de trucs sans les mots.
À quoi est-ce qu'on reconnaît, selon vous, une vie bien vécue?
C'est difficile de dire ce qu'est une vie bien vécue. Ce que je sais, c'est que ça se calcule pas en nombre d'années. C'est-à-dire que parfois, les gens pensent que quand on meurt très vieux, on a une belle vie et qu'il y a des gens qui meurent très jeunes et qui n'ont pas eu le temps de vivre. Et c'est pas complètement vrai. Moi, il m'est arrivé d'accompagner des gens qui meurent centenaires. Et quand on en parle avec leur famille, on se rend compte que il y a eu plein de loupés, plein de ratages dans leur vie, qu'ils sont passés à côté de plein de trucs. Ils sont passés à côté d'un grand amour ou d'un métier qu'ils voulaient faire ou d'espoirs qui se sont pas réalisés. Il y a comme le sentiment d'un ratage. Et puis au contraire, parfois il arrive que quelqu'un parte très jeune. Et quand vous écoutez ses proches vous parler de sa vie, vous avez le sentiment que c'était un monument, sa vie. Que quelque chose s'est construit de solide. Il y a une transmission qui s'est opérée. C'est comme un édifice que vous pourriez visiter et qui est flamboyant d'une certaine manière. Donc en fait, ça se calcule pas en nombre d'années. Je pense qu'une vie réussie, c'est une vie qui laisse des lumières et des traces dans la vie des gens qui nous survivent, que quelque chose en nous va continuer à vivre à travers eux. C'est peut-être ça, un élément de vie réussi. Et puis, ce que je dis souvent, que je nous souhaite à tous, c'est pas facile hein, de réaliser, mais je nous souhaite à tous que les gens puissent rire à notre enterrement. Ça peut sembler étrange, mais je trouve que c'est une belle réussite. C'est pas toujours possible. Hein. Parfois, la mort nous frappe à un moment où voilà, personne ne peut rire parce que c'est beaucoup trop tragique. Mais je trouve que parfois, on peut rire à des enterrements. C'est-à-dire, on peut raconter tout ce qu'ont été un peu les ratés, les loupés, les petites anecdotes, des choses qui font sourire et qui, finalement, nous racontent beaucoup plus que... Vous savez, parfois, on assiste à des enterrements, ça m'est arrivé plein de fois, où on a l'impression que la personne qu'on enterre, c'est Mère Teresa. Que tout à coup, les gens vous racontent avec un espèce de sérieux, comme si vous aviez été une sainte qui n'avait pas vraiment vécu. Et je trouve que c'est pas comme ça qu'on rend hommage bien aux gens. Je trouve que souvent, honorer les morts, c'est au contraire raconter tout ce qu'ils ont réussi et tout ce qu'ils ont loupé et tout ce qui a marché dans leur vie et tout ce qui a dysfonctionné et tous les domaines où ils ont été grands et tous les domaines où ils ont été un peu moyens. Voilà, un peu minables. Mais si on peut raconter tout ça, alors on raconte pas les gens comme des super-héros, mais on les raconte comme des super-humains. Et en fait, c'est ça peut-être une vie réussie, c'est d'avoir une vie de super-humain. Avec tout ce qui marche et avec tout ce qui déconne.
Comme nous sommes en classe, nous allons faire un tour à la bibliothèque. Delphine, est-ce que vous pouvez me partager les trois livres qui ont, d'une manière ou d'une autre, apaisé votre rapport à la mort ?
Je crois que parmi les livres que je citerai, parce que je cite très souvent cet auteur qui a une place très particulière dans ma bibliothèque, il y a sans doute Romain Gary. Et je citerai à la fois La promesse de l'aube et La vie devant soi. Dans tous les livres de Romain Gary, il y a des histoires de deuil à faire. Dans La promesse de l'aube, il est question du rapport à sa mère, d'une mère incroyablement aimante et qui a placé à l'aube de sa vie une promesse d'amour qui va lui permettre de traverser l'existence et de devenir ce qu'il est devenu. Et ça, pour moi, c'est vraiment un hommage extraordinaire à la force des parents, à la force des mères, tout particulièrement. Sentiment que si vous avez été aimé dans l'enfance, vous pourrez affronter toutes les épreuves et même les plus grands deuils. Il n'y a rien de plus fort dans la vie, je crois, que de savoir qu'on a été aimé. Et je trouve que ce livre, il le raconte magnifiquement. Et puis La vie devant soi, c'est un livre extraordinaire qui raconte voilà comment des chemins de deuil se croisent et se soutiennent. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a pas beaucoup de chance dans l'existence, qui a vécu bien des deuils tout petit, qui va rencontrer une vieille dame qui a pas eu beaucoup de chance dans l'existence non plus et qui malgré tout se met au service des autres. Et la rencontre de ces deux douleurs, de ces deux personnes endeuillées, de plein de choses, crée des étincelles, enfin dans un style inégalé, inégalable de Romain Gary. Et puis, voilà, moi, ce que je conseille toujours, c'est de lire de la poésie. Alors, j'ai pas un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit particulièrement, mais moi, je me rends compte que dans les plus grands chagrins de mon existence, les moments où plus rien ne fait sens, où surtout les mots ne font plus sens, parce que souvent, quand la mort vous rend visite, tout ce que les gens peuvent vous dire vous semble complètement bidon.
Ça glisse.
On a l'impression que c'est des banalités, que les mots veulent plus rien dire. Et ben dans ces moments-là, je trouve que la musique aide, mais la poésie aide. Parce que la poésie, c'est une façon de dire que les mots peuvent vouloir dire autre chose. Les grands poètes, ils savent prendre un langage et le transposer ailleurs et convaincre n'importe quel lecteur qu'on peut à nouveau croire, malgré tout, à la force du langage.
Pour terminer, on va prendre les petites questions des élèves. Alors, il y a Vincent qui demande « Comment est-ce qu'on peut relativiser sur notre propre finitude ?»
Alors, Vincent, je crois qu'on ne peut pas vraiment relativiser parce que c'est quelque chose de terrifiant de savoir qu'un jour, on va mourir. Et tout au long de l'histoire, pas seulement les enfants, mais à n'importe quel âge, des gens ont connu la peur de la mort. Mais pourtant, il y a moyen de transformer ça. C'est comme si la peur de la mort, c'était une force particulière en nous. Et cette force, il y a moyen de la rediriger. Cette force qui pourrait nous détruire ou nous inhiber ou nous empêcher d'agir dans le monde, c'est comme si, il n'y a pas une recette magique, hein, mais il y a moyen dans l'existence d'utiliser cette force pour en faire quelque chose. Et parfois, c'est cette force qui permet d'écrire, qui permet de chanter, qui permet de construire. En fait, on se rend compte de façon étrange dans la vie que ce qui nous permet de faire les plus grandes réalisations, c'est ce qui aurait pu nous tuer, ce qui aurait pu nous rendre tout petits et tout apeurés. C'est ce qui va nous rendre très grands et ambitieux. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de faire dans l'existence. Transformer nos peurs.
On a une deuxième question. Comment accepter la mort imprévue? Et par là, je pense que ça fait un peu référence à ce que vous disiez avant, dans les morts qui sont dans le sens de la vie, et les morts qui sont injustes dans ce sens-là.
Oui, malheureusement, ce serait tellement rassurant de se dire que la mort, elle frappe toujours à un moment où ça nous apparaît comme juste, à la fin d'une très longue vie et sans souffrance et sans regret. Mais malheureusement, on sait que c'est pas vrai, que parfois la mort frappe à un moment de totale injustice. Et je ne sais pas quelle est la recette pour accepter cela. Mais je crois que même dans ces moments-là, il est essentiel et vital de ne pas perdre de vue ce que la personne a apporté dans ce monde. Quand quelqu'un meurt, on a tendance à ne regarder que ce qui ne sera plus de sa vie. Il faut essayer de ne pas perdre de notre conscience, au contraire, la conscience de tout ce qui a été parce qu'elle fut. C'est une autre façon de regarder le monde. Pas regarder ce qui ne sera plus, mais regarder ce qui heureusement a été parce qu'elle a vécu.
Dernière question. Pourquoi choisir sa mort est-il encore tabou? Voire interdit, oui, si on parle, oui, dans le cadre, oui, légal. Hein.
Je pense que là, il y a un héritage très fort de nos traditions religieuses, évidemment, pour lesquelles, et c'est commun à presque toutes les traditions religieuses, l'idée de choisir sa mort ou de sauter la vie soi-même est un tabou énorme parce que dans nos traditions culturelles et religieuses, ça suggère qu'on en est complètement propriétaire. Et en fait, les religions, très souvent, ou les pensées traditionnelles, considèrent qu'on n'a pas complètement une propriété sur notre vie puisqu'elle nous a été donnée et que donc on n'en dispose pas complètement. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui sont évidemment pas d'accord avec cela, et heureusement, je trouve que ça fait débat dans notre société, mais je trouve quand même que c'est pas inintéressant de percevoir toujours que notre vie ne nous appartient pas complètement. Parce que de notre vie, plein de gens dépendent. Notamment des gens qui nous aiment et des gens que potentiellement notre départ va ravager et dévaster. Et c'est comme si, en fait, il fallait toujours être capable de se percevoir comme n'étant pas des îles séparées les unes des autres. En fait, chacun d'entre nous, je ne sais plus quel auteur dit ça, chacun d'entre nous est comme une presqu'île, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose face à la mer en nous qui est libre et on peut faire ce qu'on veut, c'est notre vie. Mais comme une presqu'île, on est raccroché à la terre, c'est-à-dire qu'en fait, on est raccroché à plein de gens, ceux qui nous ont donné naissance, ceux à qui on a donné naissance, ceux qui nous aiment, ceux qu'on côtoie, ceux qui comptent sur nous. Et donc, peut-être que ce tabou-là et cet interdit de se retirer la vie a quelque chose à voir avec la volonté d'avoir une conscience très forte de notre interconnexion. En fait, notre vie n'est pas que la nôtre, puisqu'elle est reliée à tellement de gens pour qui notre vie conditionnera la leur.
Et d'un autre côté, ouais, enfin, comme vous le disiez, hein, de toute façon, c'est un débat, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est assez sacrificiel, quoi, de continuer à vivre si l'on souffre, parce que on est dans une forme d'interdépendance.
Bien sûr. Alors derrière se pose évidemment la question de la souffrance et la question de la dignité de la vie. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'une vie digne? Est-ce que quelqu'un qui est dans une souffrance terrible et insurmontable, est-ce qu'à tout prix, on doit le forcer à continuer à vivre? Enfin, toutes ces questions, en fait, on le voit bien, nos sociétés aujourd'hui n'arrivent pas encore complètement à les trancher. Ça fait ces sujets de débat. Mais c'est effectivement la question de la souffrance et la question de la dignité. La question de quelle manière, parce qu'on est interconnecté, la souffrance de n'importe qui d'autre nous concerne nous directement, dit quelque chose de chacun d'entre nous et dit quelque chose de la société qu'on aspire à construire.
Dernière question pour vous, Delphine, avant de quitter cette salle de classe. La question signature d'adolescence. Au fond, qu'est-ce que ça signifie pour vous devenir adulte ?
J'aime beaucoup le titre de votre émission parce que je crois que il y a un certain danger à imaginer ce que beaucoup de gens font, que quand on est adulte, on a fini son développement. C'est-à-dire qu'on a fini d'avancer, on restreint les possibles. C'est comme si les gens s'imaginent que l'adolescence, c'est le moment où tout est possible, et l'âge adulte, c'est le moment où on limite les possibles. Et je crois que peut-être dans l'existence, il faut s'assurer de rester toute la vie un adolescent, au sens où il faut bien sûr gagner en sagesse et en maturité, mais il faut jamais oublier que on n'a jamais dit son dernier mot et qu'en fait, comme à l'âge adolescent, quelque chose en nous peut continuer à devenir, à être, n'a pas fini d'évoluer. Donc, je crois que ma définition idéale d'un adulte, c'est d'aspirer à se savoir infini, à savoir que jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier moment, quelque chose en nous est encore en mouvement, en chemin, en mutation.
Merci beaucoup, cher professeur. Si certaines qui nous écoutent souhaitent du coup continuer à en savoir plus sur le sujet, on redirige vers vos derniers ouvrages, donc notamment Vivre avec nos morts, et le dernier pour les enfants.
Comment parler aux enfants.
Superbe. Merci beaucoup, Delphine.
Merci.
Adolescence est un podcast original de France Inter.